Oui, bonjour, je vous appelle, j'aimerais avoir le numéro de Serge Dassault, là, j'ai besoin d'oseille un peu, là, pour partir en vacances. Je voudrais lui demander, donc, est-ce que vous pouvez nous le communiquer sur, à l'antenne? Voilà. Bah, j'attends, hein, merci Serge, salut.
Alors, vous voyez bien l'équipe de là-bas, si j'y suis, que notre président de la République a raison. Il y a bien en France des banlieues, des zones de non-droit où des bandes mafieuses font régner la loi de la terreur. Enfin, vous voyez, votre reportage le prouve. Hein? Bon, avec des racailles qui s'attaquent à des femmes, qui les agressent, les molestent physiquement. Hein? Moi, je dis racailles parce que notre président, bah, lui, il se permet de le dire, et il a bien raison, parce que c'est comme ça qu'on appelle les gros bras qui se permettent d'attaquer des femmes. Hein? C'est des racailles, hein, à qui on devrait dire, bah vas-y, dégage, sale con. Bon, hein? Ah, monsieur Dassault est un intime de notre président. Ah, monsieur Dassault est sénateur UMP. Ah, ah oui, alors merde, alors ça c'est plus dur, oui.
Bonjour, c'est Jocelyne de Lyon. Voyons, Daniel, à Corbeil-Essonne, Serge Dassault se donne un mal de chien pour fluidifier les rapports sociaux. C'est ce que tu ne piges pas. Alors, il est vrai que ses sbires et ses turiféraires sont plutôt teigneux et qu'ils ne rechignent pas à la besogne, surtout quand il s'agit de molester une femme avec pour seules armes un micro, un magnéto. Mais pourquoi Pascal Pascariello a-t-elle posé une question qui a fâché Serge Dassault? Ça s'appelle un crime de lèse-majesté. Même à ce stade de corruption, de dérive, ce monsieur ne peut accepter la moindre mise en cause. Il a le pouvoir absolu. D'ailleurs, Serge Dassault ne te fera pas l'honneur de débattre avec toi, Daniel, parce qu'il est occupé à préparer une enveloppe, une jolie enveloppe, pour te faire virer, Daniel. Allez, bonne émission.
Oui, bonsoir, c'est Emmanuel de Lyon. J'appelle parce que tout à l'heure, j'ai écouté l'émission... et le reportage de Pascal, et j'étais en voiture et j'ai dû m'arrêter parce que j'ai vraiment trouvé ça d'une violence inouïe, et vraiment vraiment ça m'a choqué d'entendre cette fille implorer les gens qui l'agressaient de la laisser tranquille. Enfin, c'était vraiment Ouais, c'était horrible, quoi. Vraiment, c'était vraiment. J'ai pas pu rouler. Je me suis arrêtée. J'ai attendu la fin, quoi, parce que c'était vraiment vraiment très dur. Et en fait, y a une jeune femme qui était avec elle et qui a dit mais elle était là, je la connais. Et sans l'intervention de cette personne, je pense qu'elle aurait été lynchée. Mais je le pense vraiment, hein, parce que c'était bien parti pour. J'espère qu'elle a porté plainte et qu'il y aura vraiment des suites. Et puis surtout, j'espère qu'elle va bien, parce que cette fille, elle a vraiment l'air très sympa, et j'espère qu'elle s'en sortira et que tout va bien pour elle. Voilà. Au revoir.
Bonjour Monsieur Vermeer, propagande électorale pendant une heure payée par le contribuable. Forfait parfait, Monsieur Vermeer. Vous êtes vraiment le roi de la propagande, le grand roi de la propagande, déjà proclamé prince de la propagande Goebbels en 1980. En 2008, 2007, vous l'êtes à nouveau en 2008. Bravo, vous avez gagné le premier prix de la propagande Goebbels. Vous êtes bien le Goebbels rouge, rouge comme le sang de Battisti, rouge comme le sang des FARC, rouge comme le sang de tous les assassins à la Mermet. Au revoir et bonsoir chez vous.
Bonjour, alors c'est Maric de Haute-Savoie. Donc moi je voudrais laisser un petit message pour Monsieur Serge Dassault, qui doit sûrement écouter l'émission puisqu'on parle de lui. Donc, en fait, moi, il se trouve que je voudrais bien partir en vacances. Et puis, je voudrais bien aussi créer mon entreprise. Et par la suite, je voudrais bien aussi m'acheter une maison. Donc, vous pouvez m'envoyer une petite enveloppe ou une grosse enveloppe au 333 rue des Fresnes, 74 350 Creuseil. Merci.
Ben voilà ce qu'on peut faire. Bonjour à tous. D'abord, ce qu'on peut faire avec l'argent, quoi. C'est une excellente émission, hein. C'est pour une fois, il y a un grand courage, hein, de la part d'un journaliste et de son équipe. Mais voilà ce qu'on peut faire, quoi, avec du fric. On peut tout acheter, quoi. Sa ville, c'est une ville de danseuses. Mais la République, c'est pas ça. La République, c'est un maire qui est payé par la République, par par l'Assemblée. Hein, c'est pas un maire qui travaille gratuitement en distribuant des milliards. Mais enfin, il a été à bonne école parce que son père faisait exactement la même chose du temps du général de Gaulle. Il était dans une ville, dans l'Oise, je ne me rappelle plus trop où. Et moi, j'étais chauffeur de direction et je connaissais très bien son chauffeur, un de ses chauffeurs, parce qu'il en avait plusieurs, le père. Et il distribuait, quand il y avait une grève, il rentrait dans l'établissement d'Assault, qui était le sien. Même de Gaulle n'a pas pu nationaliser, d'ailleurs. Et il distribuait des billets comme ça à qui mieux mieux, sans compter des billets de 500 balles, des billets de 100 balles. À qui mieux mieux, il brisait la grève comme ça. Il brisait la grève. Alors il avait un excellent comité d'entreprise, c'est vrai, Serge. Marseille, c'est autre chose. C'est plus gangster, quoi. Voilà, mais enfin, votre émission est de qualité merveilleusement bonne. Allez, au revoir, c'était Jean-Paul Nelson.
Il est loin le temps du père Marcel Bloch d'Assault, interné et protégé par les communistes pendant sa déportation. Marcel, fragile, malade, a pu profiter de la solidarité organisée autour du futur ministre communiste Marcel Paul dans le camp. Ce sont les communistes qui ont sauvé son père. Marcel Paul, le père de la nationalisation des ressources énergétiques, du statut des électriciens et gaziers à la libération, lui a dit, lorsqu'il est arrivé à Buchenwald, « Vous êtes sous la sauvegarde du Parti communiste français ». C'est Régis, de Nîmes.
Ça, pour une émission réussie, c'était une émission réussie. Je veux dire, aujourd'hui, là, jeudi, le reportage sur les municipales à Corbeil-Essonne. Alors, vous allez dire, oh, ouais, c'est à cause de Pascal. Bien sûr que c'est aussi à cause de Pascal, qu'on ne pouvait pas être insensible à la manière dont elle pleurait, même quand elle a été molestée par les bras musclés d'Assault. Mais ce qui m'a plu dans cette émission, c'est le message qu'elle a délivré. Parce qu'elle a bien montré que la politique, c'est pas une affaire de bienfaisance. Ce qui m'a plu, c'est de voir démonter ce schéma enraciné dans l'inconscient de notre culture, pesamment ingurgité à travers les leçons d'histoire de notre enfance. Saint-Louis rendant la justice sous un arbre, Apollo Pau d'Henri IV, Louis XIV favorisant les arts et protégeant les artistes, etc. Ça va jusqu'au paternalisme du patronat du XXe siècle et aux pièces jaunes de Bernadette Chirac. Schéma selon lequel la politique est le fait du bon roi, mais qui du même coup avalise la séparation entre le pouvoir et le peuple. C'est ça que j'ai aimé, d'entendre, de voir ça démonter. Le mythe du bienfaiteur, c'est un des principaux obstacles à l'émancipation des individus. Or, une politique émancipatrice, c'est une politique capable de nous débarrasser de ce schéma qui assujettit le peuple au bon vouloir du prince. Alors bien sûr, il y a les méchants princes qui abusent du pouvoir et tyrannisent le bon peuple, mais il y a les bons princes qui distribuent les richesses. Comment peut-on s'insurger contre un prince généreux? Sauf que c'est lui qui décide du bon usage des richesses. C'est lui qui désigne selon ses critères à lui les bénéficiaires de ses largesses. De telle sorte que tout abasourdi devant tant de bonté, il ne viendra pas au peuple l'idée que c'est sur son dos que le prince s'est enrichi. En endossant le rôle du bienfaiteur, il masque l'ordre social qui lui a permis d'accumuler ses richesses par l'asservissement et la spoliation des biens qui revenaient légitimement à ses sujets qui, eux, les avaient produits. Lors de l'émission, quelqu'un a dit à propos de la gestion municipale de Dassault, à peu près a dit on ne dirige pas une municipalité comme un groupe industriel. Eh bien, l'apprentissage de la vie politique est réussi lorsqu'on a compris ça. Lorsqu'on a compris que la justice sociale ne dépend pas du bon vouloir du prince bienfaiteur, mais de la qualité de structure politique qui permettent de rendre tous les individus égaux devant la loi. Et c'est alors seulement que la loi peut être juste. Et c'est alors seulement qu'on peut aimer la loi. Voilà, c'est ça la démocratie. Excellent reportage donc de Pascal Leu, Pascariello et de Dila Tebi, mais aussi excellente mise en relief du matériau recueilli au cours de ce reportage par la façon dont tu as construit l'émission, Daniel. Ah, j'attends la suite ce vendredi avec le plus grand intérêt. Bravo. Bravo à tout le monde.
Le bonheur. Le bonheur, quand on fait de la radio, c'est quand les auditeurs sont meilleurs que nous. C'est quand ils voient des choses que nous n'y avons pas mises et qu'ils pensent, réfléchissent à partir de ce que nous proposons. Merci à tous, merci pour ces messages, il y en a beaucoup d'autres. Mais dommage, ou regret évidemment que, contrairement à ce qui était convenu avec lui, Serge Dassault, et finalement refusé de répondre à nos questions. Résumé, pour ceux qui n'auraient pas écouté le chapitre précédent hier de ce qui s'est passé, le 8 février dernier, Pascal Pascariello est en reportage à Corbeil-Essonne. On a décidé de faire un portrait de cette ville en proie aux élections municipales. Pourquoi celle-là ? Parce que le maire de cette ville est un personnage tout à fait singulier. C'est Serge Dassault, qu'on ne présente plus, et qui a une façon tout à fait personnelle et toute particulière de gérer sa ville depuis longtemps. C'est le deuxième mandat, il se présente pour ce troisième mandat, et c'est un lieu particulièrement, on va dire, passionnel, et où il se passe des drôles de choses quand même. À Corbeil-Essonne, agression d'un élu de la majorité, destruction d'un local avec une voiture bélier, poursuite de toutes sortes, chantage, menaces de mort, voies de fait, etc. C'est quand même assez violent ce qui se passe dans cette... Donc ça nous intéressait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le soir même du premier jour où est l'enquête, Pascal Pascariello assiste à une réunion publique à la Bourse du Travail de Corbeil-Essonne, en présence de Serge Dassault, qui présente sa liste pour les élections municipales, et elle pose une question, elle a cette outrecuidance incroyable pour une journaliste de poser des questions à la fin du débat, et à peine ces questions sont-elles posées que les gros bras, unanimement commandé par on ne sait qui, se précipite sur notre frêle consoeur la roue de cou, la roule par terre, elle hurle, etc. Enfin, vous avez entendu cette scène hier. Et évidemment, ça n'est pas rien. Le lundi même, c'était un samedi, le lundi, je parle de cela à l'antenne, aussitôt, Marcel Dassault m'appelle, il trouve mon portable, il m'appelle, et en me disant que dévoilant quelque chose dont je m'étais pas douté malgré les années, que Pascal Pascariello n'est pas journaliste mais qu'elle est communiste. Bien, donc je lui propose d'en débattre et nous prenons rendez-vous pour la fin de ces... après que les reportages aient été faits, pour qu'on ait des questions à lui poser. Et puis, il y a 3 jours, je le rappelle pour ce rendez-vous, et finalement, il me fait savoir que c'est non, qu'il ne répondra pas à nos questions. Voilà, je vous ai tout résumé. Aujourd'hui, deuxième partie, évidemment, vous imaginez qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de messages. On ne va pas tous les passer, bien sûr, mais voilà un échantillonnage à peu près représentatif de ce que vous avez mis dans la boîte vocale de la basse IGCU au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, donc, deuxième volet. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans cette sacrée boîte vocale.
Ouais, allô ? Ouais, Serge ? C'est Fadela, m'a filé ton numéro. Ouais, vas-y, Serge. Sergio, vas-y, tu me prêtes ton avion. Vas-y, prête-moi ton avion, c'est pour épater Samantha. Hein ? Vas-y, Serge, prête-moi ton avion. Vas-y. Sinon, je vote pas pour toi dimanche, hein. Vas-y, prête-moi un rafale. Allez, c'est juste pour épater Samantha.
Cette émission rappelle souvenir d'une histoire que nous racontait mon père quand on était, quand j'étais gamin. Il avait travaillé quelques mois dans les usines Marcel Dassault, donc le père, pendant un été. Et en fin de chaque semaine, les ouvriers étaient obligés de venir s'aligner tous les uns à côté des autres. Et le Marcel Dassault distribuait des enveloppes aux plus méritants avec du liquide dedans, de l'argent liquide dedans. Donc ceux qui n'avaient pas d'enveloppe, c'est qu'ils n'avaient certainement pas fait suffisamment allégeance à monsieur. Donc voilà, je pense que le fils perpétue la tradition du père. Voilà. Alors, j'espère que l'émission de demain passera et que Dassault va pas envoyer un mirage sur la maison de la radio. Peut-être que vous l'enregistrez dans un bunker ailleurs que, qu'à Paris. Bon, bon courage.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission sur l'ami Dassault, enfin l'ami, pardon, sur Monsieur Dassault en podcast, et j'aimerais vous lire la définition d'un mot que j'ai découvert dans le dictionnaire. Il s'agit du mot plutocratie, du grec ancien plutocratia, plutos richesse, kratos pouvoir. Donc plutocratie, état d'une société dans laquelle les plus riches exercent plus ou moins directement le pouvoir politique ou jouissent d'une influence prépondérante. Voilà.
La racaille est dans ma rue. Elle s'y croit comme chez elle. Elle nous en met plein la vue, arrogante et criminelle. La racaille est dans ma rue, méprisante et inutile, et ça fait comme une verrue au visage de ma ville. La racaille est dans ma ville. Et parfois elle me fait peur, dans ses autos qui rutilent, elle a l'œil du tueur. La racaille dans mes cités, elle a des visages sans vie, des cravates de députés et des vues sur mon pays. La racaille dans mon pays vient d'accéder au pouvoir, décomplexée aujourd'hui, elle se dit, c'est le grand soir. Mais ce que la racaille ignore, c'est qu'à force ça va se voir, et qu'un jour on mettra dehors cette racaille en costard. Merci Daniel de nous faire comprendre qui sont les vrais privilégiés, qui sont les vrais parasites. Et bon courage, la lutte commence tout juste. Salut, c'était Jean-Baptiste à Lyon.
Excusez-moi. Bonjour, je travaille pour France Inter.
Oui, alors, France Inter en direct.
Voilà, donc j'ai trois petites questions à vous poser. La première, c'est, je ne sais pas si vous avez expliqué à vos concitoyens, monsieur Serge Dassault, le fait que vous considériez la mairie comme une danseuse, Corbeil-Essonnes. Complètement. Alors, je voudrais juste savoir où en sont les perquisitions du juge, où on en est avec Bouygues.
L'histoire de votre vie professionnelle, Serge Dassault, c'est quoi pour vous? Le matin, quand vous vous levez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pensez aux avions? Vous pensez à la presse?
Je pense beaucoup à mes affaires politiques, les affaires du Sénat et les affaires de Corbeil-Essonnes. Mmh.
Son salaire de merde, il n'en veut pas. C'est le titre de prestige qu'il veut, lui. On dit qu'il est de maire de Corbeil. Voilà, c'est ça, ça son prestige. Si tu le vois, il a un petit peu de mal à marcher parce qu'il est vieux maintenant. Il donne. Mais il donne pour corrompre les commerçants. L'autre jour, il était au marché, il a vu tous les commerçants. Il discute avec les commerçants, c'est cool, les voit ça. Non, on habite au pays d'Henri IV.
On a besoin d'argent, on va voir le maire.
Tiens, voilà. Il nous met bien.
Les verts, ils vont faire quoi à sa place?
Franchement, il nous met bien. Moi, je vote. On sait de voter pour Dassault. Hein. Pas pour personne d'autre, hein. Il nous met bien.
Alors, on va parler un petit peu de politique, parce que ça, c'est vraiment ce qui vous plaît.
Donc j'ai pris une ville vraiment communiste hein, depuis 38 ans. Pourquoi j'ai été élu? Parce que j'ai dit aux gens, je vais essayer de résoudre vos problèmes.
Vous nous posez la question de savoir qu'est-ce que cette municipalité a apporté depuis 12 ans. Mais on vous répond clair et net, elle a apporté la division parce qu'il y avait des financements privés.
Ben c'est simple, la Corbeil c'est un caprice de bourgeois. Le caprice d'un milliardaire, voilà.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Pascal Pascariello et Tila Tebi, Corbeil-Essonne, municipal.
Flight number 2, arriving from New York.
En ce moment, on est en campagne électorale. On dit, mais monsieur Piriou, vous êtes bien gentil avec vos idées généreuses et vos valeurs. Enfin, moi, j'ai rien, je suis au chômage, etc. Moi, il y a un maire d'un côté qui peut me donner des sommes considérables, soit pour partir en vacances, soit pour monter mon entreprise. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Je trouve là que, effectivement, il nous donne l'occasion, ce maire, avec ses pratiques, d'avoir un beau débat philosophique et de société. Eh bien, moi, je pense que ce qui doit structurer la société, c'est aider des humains à se former, à travailler, à avoir une reconnaissance et une utilité sociale dans la société. Voilà, ça, c'est mon projet politique, vous voyez. C'est pas des seigneurs puissants qui donnent des sommes considérables à d'autres pour soi-disant les tenir, soit se comporter comme le seigneur. Regardez ce que devient ce système politique, quoi. Nous ne sommes plus des êtres humains. On est une bande d'animaux qui, c'est au plus puissant qui règne, quoi. Et là, nous, on a la malchance d'avoir un maire milliardaire qui considère qu'il peut acheter tout le monde et tenir tout le monde. Et moi, je pèse mes mots. Je pense que à Corbeil-Essonne, nous avons un système mafieux qui s'est installé, ou d'ailleurs, moi-même ayant été menacé récemment.
C'est-à-dire menacé?
Eh bien, menacé de mort au dernier conseil municipal il y a un mois, parce que il y en a qui se disent, si ce monsieur Bruno Piriou devient maire de Corbeil et qu'il applique la loi, eh bien, les entreprises qui auront des marchés seront celles qui auront répondu à des appels d'offres et qui les auront mérités. Ceux qui partiront en vacances, c'est parce qu'on aura développé des services publics et on partira en vacances. Et je leur dis d'ailleurs, si vous êtes encore dans une logique de ce système-là, effectivement, vous n'avez pas intérêt à ce que je sois maire de Corbeil-Essonne.
Depuis des années et des années et des années, celui qu'on vient d'entendre, Bruno Piriou, conseiller municipal depuis 2000, vice-président du conseil général de l'Essonne, lutte contre le maire UMP Serge Dassault de Corbeil-Essonne. Bruno Piriou se présente, bien évidemment, ce dimanche, avec d'autres sur d'autres listes. Alors, pour que tout soit clair, je vais reprendre un texte court du Parisien, le quotidien Le Parisien, qui observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe en général pour les municipales, et mais tout spécialement à Corbeil-Essonne. Donc se présente ce dimanche Serge Dassault, UMP, 82 ans, maire depuis 1995, sénateur, ses forces, d'abord son nom, sa puissance, l'attachement des habitants, ses faiblesses, son âge, les enquêtes en cours autour de la mairie et ses multiples casquettes. Deuxième liste, Serge Dantu, divers droite, 61 ans, ex-adjoint aux travaux, conseiller municipal depuis 1989. Ses forces, son image d'homme qui a dit non, sa présence sur la ville, ses faiblesses, ses allers-retours avec Serge Dassault, son absence d'appareil politique. Autre liste, celle du Parti Socialiste avec Carlos Da Silva, 33 ans, suppléant du député maire d'Evry, patron du PS de Corbeil. Les forces, son image d'homme neuf, son étiquette, sa jeunesse, ses faiblesses, son image d'homme d'Evry, sa jeunesse, son inexpérience en tant qu'élu. Et Bruno Piriou, qu'on vient d'entendre, 46 ans, je le disais, conseiller municipal depuis 2000, vice-président du conseil général, ses forces, sa notoriété, sa longévité d'opposant, sa volonté de rassembler, ses faiblesses, son appartenance à un parti en déclin, le Parti communiste, son alliance avec l'extrême gauche et son image d'agitateur. Voilà, j'ai parlé de tous ceux qui se présentent ce dimanche au premier tour des élections municipales de Corbeil-Essonne. Notre reportage essaye de dépeindre un peu tout ça, de dépeindre quand même cette ville particulière et ce qui s'y passe particulièrement. C'est vrai qu'en matière de fluidification des relations sociales, la chose n'est pas récente. On a évoqué les méthodes de Marcel Dassault autrefois qui faisait sourire beaucoup de monde. C'était vraiment, on faisait des gorges chaudes avec ce qu'évoquaient certains auditeurs. Et c'est vrai que c'est une vieille méthode. C'est des pratiques coupables, mais courantes au niveau des municipalités aujourd'hui, qui consistent à acheter la paix sociale en finançant des projets associatifs, qui est une façon de graisser la patte de certains caïds en échange
de la paix sociale dans les quartiers. Sauf que là, à Corbeil-Essonnes, on l'a vu hier, et c'est un secret pour personne, ou alors un secret de Polichinelle, c'est avec sa fortune personnelle que le marchand d'armes milliardaire fluidifie les relations sociales. Et d'ailleurs, Serge Dassault ne s'en cache pas, il y a d'ailleurs, il a raison, il n'y a là rien d'illégal, il le répète, je fais ce que je veux de mon argent, et il aime répéter, je suis vieux, je fais ce que je veux, il a bien raison. Pour les uns, c'est de la générosité, c'est des coups de pouce qui sont parfois d'ailleurs efficaces, et pour les autres, c'est de la corruption, car bien évidemment, premièrement, cela suscite de féroces jalousies pour ceux qui n'ont pas leur part du gâteau, et deuxièmement, ceux qui ont leur part en demandent plus et toujours plus. Et on arrive ainsi à des chantages, à des menaces, à des voies de fait, donc à un état de corruption avancée. Agression d'un élu de la majorité, on l'a évoqué hier, destruction d'un local avec une voiture bélier, quand même. Bienvenue à Corbeil-Essonnes. Alors, on va faire le tour un peu des uns et des autres, de leurs sentiments, de leurs témoignages, de leurs informations. Évidemment, tout cela à la veille d'une élection, ce qui ne va pas sans un certain échauffement et sans une certaine passion. Mais après tout, c'est ça la démocratie et c'est ça la République. Alors on commence avec Monsieur Serge Dantu, dissident. On l'a présenté hier. Il a longtemps travaillé auprès de Serge Dassault. Aujourd'hui, il se présente comme un dissident sur la liste Alternative Ensemble, ex-conseiller municipal, donc Serge Dantu.
Est-ce que c'était pas justement ce système d'enveloppes, de petites enveloppes ou de moyennes ou de grandes enveloppes, un moyen aussi d'acheter, entre guillemets, ou d'avoir l'impression de calmer les quartiers?
Je pense que...
Acheter la paix sociale.
Oui, ça c'est le grand mot qu'on utilise, acheter la paix sociale. Je pense que le maire, quand il l'a fait, et je pense qu'il était sincère dans le sens où il pensait, lui, faire bien. Dans son esprit à lui, je pense qu'il croit bien faire. Il ne se rend pas compte du mal qu'il fait, j'allais dire, au système démocratique dans lequel on devrait vivre. Je crois qu'il le fait en toute sincérité, en toute bonne foi, en dehors de la période électorale, hein, où là, c'est vraiment à part. Mais à longueur d'année, quand il le fait, je pense qu'il fait parce qu'il croit que c'est bien et qu'il rend service aux jeunes en les aidant de la façon dont il le fait. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il le fait. Il le fait de bon cœur, je dirais.
Vous m'expliquiez aussi tout à l'heure qu'il y avait un côté un peu « ils sont canailles ». Vous m'expliquez que justement, à se frotter un peu aux gros caïds et à leur offrir des cadeaux comme ça, il y a un plaisir de s'encanailler chez Monsieur Serge Dassault.
C'est ce qu'on a plusieurs, on a pensé à plusieurs fois. Je crois qu'il vit dans un monde un peu aseptisé où tout est bien, tout est clean, tout le monde, j'allais dire, le caresse dans le sens du poil et voilà. Et donc, je crois qu'il a un malin plaisir à vivre, j'allais dire, à dire qu'il côtoie les jeunes du quartier avec leur langage et leur façon de faire. Je crois que ça doit être chez lui. Je soupçonne que ça lui fasse un petit plaisir.
Les sagas du pouvoir. Edwige Chevrillon sur BFM.
Serge Dassault, bonjour. Vous êtes à la tête de la quatrième fortune de France, vous êtes le principal actionnaire de Dassault Aviation, de Dassault Systèmes, de la maison Arcurial des Canaries, le football club de Nantes qui a été relégué en deuxième division. Vous contrôlez le Figaro via la Socpresse, Valeurs Actuelles, sans oublier le grand cru classé Saint-Émilion, le château Dassault. L'histoire de votre vie professionnelle, Serge Dassault, c'est quoi pour vous? Le matin, quand vous vous levez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pensez aux avions? Vous pensez à la presse? Ou alors, est-ce que vous pensez, bon, je pense pas au football, mais au bon vin que vous allez prendre à déjeuner?
Je pense beaucoup à mes affaires politiques et à la mairie. Vous savez, gérer une ville, c'est très prenant, beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à voir.
C'est vrai que beaucoup de gens, y compris certains jeunes qui sont en difficulté, ils ont votre téléphone portable? Oui, ou alors ça, oui. C'est un peu là encore la légende qu'on veut créer ou fomenter?
D'ailleurs, une dérange un peu trop souvent, ils m'envoient des textos. Mais c'est parce que je veux qu'il n'y ait aucune barrière.
C'est un système, j'allais dire, qui ne pouvait vivre qu'avec lui. quand il était en pleine forme, en pleine capacité tout le temps, quoi. Voilà, donc là, il arrive au bout de son système, avec sa façon d'agir et de faire, que lui seul pouvait manœuvrer. Et personne peut, j'allais dire, mener une mairie comme il l'amène, lui. Hein, une mairie, les fonctionnaires, ils sont au service des habitants. Lui, il pense certainement que les fonctionnaires sont à son service. Je crois que la différence, elle est là. Hein, une mairie se gère avec une équipe. Voilà, lui, non, l'équipe, elle est à son service. Tout le monde doit être à son service. Voilà, donc c'est ça que les Corbeil-Essonnois ressentent de plus en plus. Et qu'il faut arriver, je vais dire, à cesser. Quelles que soient les tendances, peu importe, mais c'est fini, quoi. Je veux dire, cette politique-là, elle ne peut plus durer. Si ça dure encore un peu, ça durera un an ou deux. Je ne pense pas que ça puisse durer encore éternellement. Et malheureusement, ce qu'on le verra, c'est quand M. Dassault partira, ou tout de suite, ou dans un an, ou dans deux ans, c'est là qu'on aura les difficultés. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont maintenant 25 ans, qui ont connu ce système, j'allais dire, qu'on découvre maintenant en grande ampleur, maintenant, nous y compris, qui ne connaissent que ça et qui n'ont pas travaillé beaucoup, et voilà, qui auront des difficultés financières, et comment ils vont réagir dès que, j'allais dire, que la source va se tarir, et ben là, c'est ceux qui vont rester à la ville qui vont avoir les difficultés.
Nous, à l'époque, c'était, il n'y avait pas d'intérêt politique. On s'en foutait, on était apolitique, on s'en foutait. Mais par contre, on a compris comment un système avait commencé à marcher. Moi, j'avais 15, 16 berges, on descendait, on cassait des portes. Écoutez, on est en dessous du bâtiment, on n'a rien, on n'est que dalle. Directement, on souvenait que les finances. Alors, mettez-vous à la place des mômes de l'époque. Quand on connaît les mœurs d'une ville, on sait que c'est difficile. Comment vous pouvez ne pas présenter, par exemple, une enveloppe de, je sais pas, 4 000 ou 5 000 euros en leur disant, allez faire un tour, allez skier, prenez les pistes rouges, prenez les pistes noires. C'était justement une paix sociale, quelque part. Et en même temps, pendant les étés, ça leur permettait d'aller voir les gens. Pour que les gens puissent voter pour eux, il fallait le moins de gangrène possible. Donc la gangrène, qu'est-ce qu'on en fait? On la balance, on lui dit, prends un train, va faire un tour du côté des Alpes. C'était trop facile.
Voilà un de ces jeunes en difficulté, ou ex-jeunes en difficulté, entre guillemets, qui explique comment ça s'est installé, comment ce système s'est installé, comment on a acheté la paix sociale dans cette bonne ville de Corbeil-Essonne. On parle de fracture sociale, d'apartheid social, de ghetto, le fossé se creuse, quand le gratin de Neuilly s'aventure en banlieue, c'est avec une forte escorte policière, et encore, c'est pour insulter la racaille et ainsi espérer rafler les voix des petits blancs qui étaient jusque-là le cheptel de Le Pen. Mais Serge Dassault, le milliardaire, lui, non, le populo l'intéresse, c'est son truc, sa danseuse, son hobby, et le populo l'intéresse, mais soyons justes, il intéresse aussi le populo, pour les raisons qu'on nous dit là. Pour ses beaux yeux, bien sûr, pour ses discours, bien sûr, mais aussi pour ses milliards. Parce que Corbeil-Essonne, c'est pas Neuilly, il y a un chômage élevé de 17,3%, ce qui est quand même pas mal, ce qui veut dire que dans certains quartiers, le chômage est très 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 élevé. Hier, on avait l'animateur d'une association qui s'intitule Corbeil sans fin et qui vient en aide à 200 familles qui ont des problèmes alimentaires, des problèmes de nourriture, ce qui concerne 600 personnes. Donc, voilà, Corbeil-Essonne, en gros, c'est pas le Phuket. Alors évidemment, les prodigalités du milliardaire lui assurent certaines adhésions et certaines sympathies, mais aussi certains chantages, bien évidemment, des façons d'extorquer, puisque ça semble sans fond, cette fortune-là, et il s'agit de l'obtenir par tous les moyens. C'est donc bel et bien un état de corruption. Serge Dassault n'est absolument pas corrompu lui-même, comment serait-on corrompu quand on est milliardaire, mais il a installé, peut-être avec des bonnes intentions, allez savoir, on n'a pas à en juger, mais le résultat, c'est effectivement un certain état de corruption dans la population, dans la jeunesse et dans les quartiers dits sensibles.
C'est la mise en place d'un système, et vous l'avez vécu au départ. Alors expliquez-moi, justement, alors comment vous avez fait, vous ?
Si jamais le projet n'est pas acquis, que ce soit pour aller au ski, que ce soit pour aller à l'étranger ou n'importe quoi, si le système n'est pas acquis, qu'est-ce qu'on fait ? Sa gueule, on prend... La tête, pour l'époque, on prend toujours la tête pensante. Le Pucal, il donnait rendez-vous. Et puis tout se faisait naturellement. Bah, c'est-à-dire, prenez l'argent, foutez-nous la paix, allez en vacances.
Et vous êtes parti où?
À l'époque, on partait au ski, on partait à la montagne. quand il y avait les communistes, c'était un peu plus honnête, voilà, il y avait des budgets, c'était les gens partaient avec les cautions familiales, alors calcul de caution familiale, alors qu'après il n'y avait plus de caution familiale, il n'y a plus de calcul de caution familiale, c'était bon, ça nous casse les pompes, bon, on les envoie en vacances. Il n'y avait rien, les maisons de quartier elles étaient à sec, il n'y avait plus de thunes, il n'y avait plus rien, puis bon voilà, on nous a financé, puis on est parti. Dans les débuts des années 90, je veux dire 95, 96, c'était rien, c'était de la gnognotte. C'était pas pour ouvrir un compte en banque, c'était pas pour remplir un compte en banque, on dit rien. C'est toute là la différence entre hier et aujourd'hui. Je nous préfère le système, on l'a vu. Je sais ce que nous on a fait quand on était môme. On l'a vu en premier, mais on n'aurait jamais pensé que ce système aurait pris une ampleur pareille.
Est-ce que ce système parallèle, ça vous nuit, vous en tant qu'élu?
Ça nuit évidemment au système démocratique. Ça nuit, j'allais dire, à toute l'équipe municipale. On retrouve un système, j'allais dire, de commandement qui revient à tout coup au maire. Les gens ne veulent parler qu'au maire, puisque c'est lui qui a le pouvoir, à un moment donné, s'il le veut, suivant son désir, d'offrir et de donner ce qui peut rendre service à la personne. L'élu, il est tenu par un budget, il est tenu par une fonction stricte, il est tenu par les lois. Il peut pas en sortir. Voilà. Donc, et d'autres personnes à côté ont le pouvoir, parce que ils sont riches, parce que, voilà, des tas de raisons, de détourner ou de prendre à leur profit ce système, j'allais dire, de direction. Voilà. Donc, à chaque fois, les gens s'adressent à monsieur le maire.
On peut faire le lien donc que ce système parallèle fausse les règles du jeu.
C'est évident que ça fausse le système politique. On s'en rend bien compte, puisque...
C'est évident pour vous, mais nous, on s'en rend pas compte. Donc pourquoi c'est évident? Comment ça, c'est évident?
Je vais vous le dire, parce que c'est évident, c'est par rapport notamment, tout simplement, au vote prochain qui va avoir lieu. Lorsque les jeunes parlent avec nous, avec Madame Lesage, qui était très appréciée, ou à moi-même, qui me respecte, et ils disent, mais Monsieur Lantu, on vous aime bien, mais bon, avec Monsieur Dassault, on peut toujours aller lui demander de l'argent. Et donc, il dit, on préférera voter Dassault. Et quand on lui dit, ouais, mais il a 83 ans, ça va pas durer encore des années et des années. Il dit, ouais, mais tant que ça dure, ça dure. Voilà, donc on en est là. Donc ça fausse, évidemment, le système démocratique, là, vraiment, de l'élection. Donc, tout le monde trouve ça tout à fait injuste, parce que c'est vrai qu'on se croit dans un système démocratique, mais là, on voit bien que c'est la fortune qui fait l'élection depuis un certain temps. Donc, on espère que tous ces gens vont se réveiller et qu'aux prochaines élections, ils voteront pour une équipe, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, peu importe, parce qu'il n'y a qu'un monsieur Dassault, bon, voilà, il arrive en fin de parcours, bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, il arrive en fin de parcours, il y aura une autre équipe, quelle qu'elle soit, je pense qu'elle aura un fonctionnement normal.
Et on retrouve tout de suite Edwige Chevrillon pour les sagas du pouvoir.
Vous avez la dent dure, Serge Dassault. Est-ce que vous oubliez ou vous n'oubliez rien?
Je n'oublie pas, mais je subis et puis j'essaye de faire face à tous les problèmes. J'ai eu de très bons amis, toujours très bons amis dans le fil socialiste d'ailleurs, comme je suis le communiste.
À droite aussi, vous avez de bons amis.
À droite, j'ai de bons amis, heureusement. Mais ça dépend des moments.
Oui. En ce moment, on peut dire que vous avez des amis très proches ou pas? Oui. Serge Dassault, on dit que vous êtes très proche de Nicolas Sarkozy.
Oui, je le connais depuis longtemps. Et puis, des autres aussi, les ministres. Maintenant, je les tutoie. Bon, je suis très, très copain avec eux.
Votre principale qualité, c'est quoi, Serge Dassault?
Ah, c'est rien, je ne sais pas moi le dire. C'est peut-être la persévérance.
Et votre principal défaut?
La gentillesse.
Eh ben voilà, on se retrouve tout de suite.
Il y a énormément d'associations qui se sont créées pour pouvoir additionner en fait des subventions et qui derrière ont fait des actions qui en temps normal on aurait fait sans fonds. Mais puis en plus c'est légitime
d'en parler. Bernadette Lesage.
Enfin vous voyez, ce qui est anormal devient normal presque. C'est quand même fou parce qu'on banalise. Donc c'est pas banal en effet. Mais ces associations, ben, elles ont fait comme les autres. Et je vais pas le reprocher non plus aujourd'hui d'avoir bénéficié d'un système auquel de toute façon ils ne pouvaient pas échapper. Donc voilà, tant mieux pour
c'est
eux.
C'est terrible ce que vous dites.
Oui, c'est terrible.
Auquel on ne pouvait pas échapper.
Non, on ne pouvait pas échapper. Attendez, aujourd'hui, on en est tous là. On sait tous très bien que c'est comme ça. On ne pouvait pas y échapper. Et on n'y échappera que lorsque Serge Dassault ne sera plus là. Parce qu'il aura toujours cette aura en plus. Parce que c'est quelqu'un d'important, mais qui a en plus du charisme. C'est aussi une personnalité. Donc, on ne peut pas le nier. Il a du charisme. Il a de l'argent, énormément. Il a des appuis au niveau du président aujourd'hui, des ministères, etc. Il fait valoir tout ça. Les gens, ça les fait rêver. Pour moi, je savais même pas ce que ça pouvait représenter, un Serge Dassault milliardaire, quoi. J'avais 20 ans quand je l'ai vu la première fois. C'est, voilà. Et après, on rêve, parce que on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un personnage qui, en plus, a des largesses. Donc, voilà. On peut pas reprocher ça aux gens. C'est normal. C'est normal qu'ils en aient profité. Maintenant, c'est pas normal que ça continue. Et c'est clair que là, aujourd'hui, en plus, on est arrivé à un point de non-retour. Il faut tourner cette page et aller travailler de façon plus normale.
Bah, pourquoi est-ce que ça continue? Pourquoi il s'appuie pas sur son équipe municipale?
Serge Dassault n'est pas quelqu'un qui s'appuie sur son équipe municipale, il n'a pas besoin des autres. Et lui, il avait à assurer sa réélection et il a pensé, enfin certains autour de lui ont pensé que c'était la meilleure solution, c'est-à-dire d'avoir un impact sur les gens. C'est pas toujours payant la démocratie, on le sait bien, donc vaut mieux assurer les choses. Je crois que c'est un peu ça finalement.
Je travaille pour l'association Millennium qui a été créée en 2001. À Corbeil, à mon conseil, pour essayer de réinsérer un peu les jeunes en difficulté par le biais d'actions sportives.
Serge Dassault, comment ça se passe avec lui?
Bon, ouais, c'est vrai qu'il a une certaine, fortune. C'est clair que nous, en 2004, 2005 et 2006, Serge Dassault nous a beaucoup aidés. C'est à titre personnel et c'est un geste de générosité, c'est tout. Je pense qu'il est dans cette optique-là, le père Dassault.
Ben voilà, le père Dassault. Vous voyez, il n'y a pas que des mécontents, il n'y a pas que des aigris, il n'y a pas que des communistes, il n'y a pas que des journalistes à Corbeil-Essonne.
Donc déjà, il paye de sa propre poche.
Oui. Il nous a aidés sur des projets humanitaires, voilà.
Humanitaire, vous développez quoi à l'étranger?
Des actions autour du tour de l'amitié judéo-musulman. Quand vous avez la chance, d'avoir une personne comme Monsieur Dassault et qui vous aide sur ce genre de projet, voilà, je vois pas, il est où le mal?
Et demain, c'est quoi que vous organisez justement? Un match de foot?
On organise un tournoi de foot pour une grille de Bettencourt. Voilà, juste avant, on va faire un briefing, on va faire une introduction. Donc on va dire qui elle est, pourquoi elle a été emprisonnée. Et voilà, il faut respecter tout ça. Je pense que Monsieur Dassault, il a ses défauts, il a ses qualités.
Alors ce serait quoi ses défauts à votre avis?
C'est peut-être qu'il est trop généreux.
Avant vous étiez plutôt UMP ou plutôt PS?
J'ai jamais été ni à gauche ni à droite. Nous, ici... Si on vote Monsieur Dassault, on vote pas son étiquette, on vote l'homme. À un moment donné, faire la politique, c'est aussi regarder un peu ses intérêts. On s'en fout qu'ils soient de gauche ou de droite, ou on cherche à savoir s'ils ont un bon programme, une bonne politique de la ville, une bonne politique aussi pour les associations.
Et ouais, voilà, ils sont généreux, quoi.
Aussi, voilà, parce que ça compte aussi. Mais voilà, quoi, c'est Corbeil-Essonne, ça.
Deux minutes.
Il y a pas un petit chèque là, parce que vous parlez d'argent tout à l'heure. Là, je vous ai fait une petite interview de 20 minutes. Il y a pas un petit chèque là?
Comment?
Il y a pas un petit chèque? Vous avez pas?
C'est l'habitude.
C'est Corbeil-Essonne.
Ça vient pas de la part d'Assaut, sinon il y avait le chèque avec.
Non, je vais demander de l'argent moi si.
Non, mais pas pour ça.
Ici à Corbeil, il y a des gens qui ont touché. On est d'accord. Là, on est dans. Je te donne.
Personnellement, de l'argent.
L'argent. Là, on est. Tiens, prends. Et la paix sociale.
C'est normal, nous on a touché 10 000 euros. Depuis 2001, on n'avait jamais touché de l'argent.
Ouais, et
moi, je fonctionne avec les intérêts. Moi, demain, si on m'aide, je vote pour toi. Demain, tu m'aides pas, salut, ciao, pantin. C'est ça la réalité. Moi, je fonctionne comme ça. Oui, moi, il n'y a personne qui me donne à manger.
L'association, elle ne travaille pas pour elle-même.
Le mec qui m'a aidé, je vote pour lui. C'est ça la France d'aujourd'hui. La France, c'est chacun ses intérêts, chacun voit midi à sa porte. C'est ça.
Bon. Bon, mais c'est pas partout comme ça. C'est pas partout comme ça à Corbeil-Essonne. Il y a ça, assez souvent. Mais il y a aussi des gens qui dirigent des associations, qui animent des associations, et qui ne mangent pas de ce pain-là.
Donc vous, ça fait à peu près, ça fait combien de temps que vous êtes à Corbeil?
Depuis 17 ans. Je travaille dans une société de transport. Je gère également beaucoup de choses au niveau associatif sportif, au niveau associatif culturel.
Et vous habitez de...
Oui, le quartier des Tarterets.
J'ai rencontré des jeunes qui ont un lien assez étonnant avec leur mère et qui me disent « Oui, mais SD, alors il appelle SD, c'est un classeau. » Alors SD ou papy, on a son portable et puis il nous met bien.
Alors c'est quelqu'un qui souvent est appelé en effet SD, papy, le vieux. Maintenant, personnellement, je sais, j'ai vu des choses, ce pourquoi on peut dire qu'il nous met bien, parce que moi-même, indirectement, des personnes qui sont très très en dessous de lui hiérarchiquement, qui m'ont proposé des choses, notamment au niveau avancement, par rapport à des projets sur l'association, en disant que si je faisais le choix de la bonne personne, etc., mes projets pouvaient peut-être gagner en rapidité et pouvaient prendre une ampleur un petit peu plus grande.
C'est-à-dire, on est venu vous voir pour vous dire, si tu veux que ton projet aille plus vite, on est là. Et ça s'est passé où? Dans la rue
Ça s'est passé... dans des lieux dits communaux, dans des bureaux, service jeunesse, etc. Et une autre fois, ça s'est passé dans un centre commercial.
Alors là, ça c'était des personnes de la municipalité qui vous ont approché.
Oui, ça sont des personnes de la municipalité. Et si j'avais accepté la chose, pour un petit peu plus. Là, en l'occurrence, on dit, bah, plutôt que d'avoir 20 000, essaie d'en avoir 50, demande-en 100. Puis derrière, on me les aurait donnés. Mais il y en a qui l'ont pris, moi personnellement, j'ai pas voulu. On est venu me voir en me disant « Ouais, c'est dommage que tu n'aies pas présenté ton projet, que tu sois plutôt passé par le conseil général, etc. parce que ça aurait pu servir les Corbeil-Essonnois. » En l'occurrence, ça a servi les Corbeil-Essonnois, mais pas avec l'organe de la mairie de Corbeil-Essonnes. De toute façon, la mairie de Corbeil-Essonnes, je pense qu'elle n'aurait pas pu financer mon projet, parce que les caisses sont vides. Je ne veux pas de l'argent personnel d'une personne, parce qu'on ne m'achète pas. Si j'étais passé par certaines personnes, on m'aurait imposé certaines choses. Et en m'imposant certaines choses, on m'aurait sûrement imposé certaines personnes. Des personnes qui, elles, sont beaucoup plus mouillées que d'autres, avec justement Monsieur Dassault, etc. Parce que ce sont des personnes qui, je sais, ont monnayé certaines choses, etc. C'est des enveloppes qui traînent 200, 300, 1000 euros, 10 000, 20 000. Je suis pas pour, mais je comprends qu'on soit un petit peu tenté de se dire « Je vais peut-être pouvoir sortir de la misère. Pour cela, j'ai juste besoin d'aller serrer 2-3 mains, m'insérer dans 2-3 projets. Et puis après, les choses seront faciles pour moi. » Je le comprends. L'association n'a pas but d'être identifiée comme étant politisée. C'est une pratique qui est rentrée dans les mœurs. Mais je veux dire que sur Corbeil, c'est monnaie plus que courante.
Tiens, Dassault.
J'étais un peu gonflé là.
Il crée de l'attention en un mot et de la tension en deux mots. Voilà, c'est vrai que ça c'est très... C'est vraiment que Corbeil-Essonnes c'est comme ça.
Et, ouais. Et est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a cette espèce de climat, enfin d'omerta, c'est-à-dire personne ne nous a vraiment parlé en nous donnant leur identité?
Oui, ben c'est vrai, les gens ont peur de parler. Ce matin j'étais chez un pharmacien de Corbeil qui me disait, pour avoir été dans beaucoup de villes à des moments d'élection, que c'était la première fois qu'il avait cette sensation où les gens avaient peur de parler. C'est vrai. C'est vrai, parce que les gens ont peur de représailles, il faut être clair. Les gens ont peur, voilà. Ils disent, si on dit du mal, si c'est mal interprété, qu'est-ce qui va nous arriver, voilà. Ben, vous en avez fait l'expérience l'autre fois, en voulant interviewer ou en posant une question sur un sujet qui est encore un peu scabreux, ben voilà. Donc, les gens de la ville, ils sont comme vous, hein, ils sont un peu inquiets.
Comment vous expliquez justement l'interrogation qu'on avait tout à l'heure encore? On se demandait, et vous dites que... Enfin, vous expliquez que ça avait peut-être un rapport avec ce système-là, que si on prend la liste des faits divers sur Corbeil, on se rend compte que c'est étonnant, mais l'équipe municipale est souvent agressée.
Ben, c'est peut-être parce qu'il y a un climat de tension dû justement à ces dysfonctionnements d'une mairie et des services. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu Monsieur Le Bigre dernièrement qui a été agressé d'une façon, j'allais dire, assez sauvage quand même, hein, semble-t-il. On a vu les marques pendant longtemps. Monsieur Aymar, à son époque, avait été également aussi agressé. Alors, je sais pas si c'est un lien, mais l'épouse de Monsieur Fritz avait aussi été agressée.
Voilà. Et ces personnes, donc Le Bigre, on sait-tu, Monsieur Aymar et Fritz?
Bah, monsieur, bah, ce sont des adjoints, hein. Monsieur Aymar a la fonction toujours d'ailleurs de maire adjoint aux finances et à l'urbanisme, et monsieur Fitz est le premier adjoint.
Ses opposants l'appellent le mirage Serge Dassault, accusant l'avionneur et patron de presse d'avoir vidé les caisses de la ville. Falsification d'appels d'offres, perquisition à la mairie, insultes d'élus, achat de la paix sociale. Malgré tous ces démêlés, le maire sortant, 82 ans, se dit prêt à rempiler pour un troisième mandat. et réfute tout clientélisme.
C'est complètement stupide. D'abord, ça veut dire quoi, clientélisme? Moi, je ne veux pas donner de l'argent à tout le monde, il y en a trop. Il y a 15 000 lecteurs, bon, qu'est-ce que je fais? Je donne 1 000 euros à chacun. Non, mais c'est stupide, ça ne veut rien dire.
Face à lui, l'élu communiste Bruno Piriou, qui mène depuis des années une guerre judiciaire sans merci contre le sénateur maire.
Serge Dassault avait besoin d'une ville comme un peu son jouet, sa danseuse. Une des pages qui doit se tourner à Corbeil, c'est ce sentiment d'un maire autocrate et Corbeil-Essonne doit retrouver les couleurs de la démocratie locale.
Sauf qu'à gauche se présente un autre candidat, le socialiste Carlos Da Silva, suppléant du député Manuel Valls, la frange la plus à droite du PS.
Il subsiste à Corbeil-Essonne des vestiges du passé communiste et puis il existe une gauche moderne à travers une politique de sécurité forte.
Mais difficile d'imaginer que les deux listes de gauche ne fusionnent pas au second tour. Il faut aussi compter avec un candidat modem dont les voix sont très convoitées. Cette fois, le scrutin risque d'être serré à Corbeil-Essonne. Serge Dassault peut vaciller.
Voilà les enjeux de ce dimanche, résumés par nos confrères d'RTL, amis de Corbeil-Essonnois, je crois qu'on vous appelle comme ça. C'est à vous de jouer, on arrive au terme de ce deuxième volet sur cette bonne ville de Corbeil-Essonne, avec ces paroles que voici.
Moi personnellement, je dirais que ce qui me touchait le plus à la rigueur, c'était même pas une question d'argent ou de finance. C'est devenu politique. C'est-à-dire qu'on commençait à dire aux gens que s'ils voulaient qu'on leur finance leur truc, qu'ils restaient avec le parti politique, qu'ils aient un parti pris. Et c'est ça qui m'énerve. Qui donne de l'argent à des individus, je dirais qu'on est en démocratie, je dirais en République, ça, il faut être franc. C'est son propre argent. Il en fait ce qu'il veut à la rigueur.
Mais alors, où est le problème, alors?
Le problème, il est que... On va dire que sa politique... a divisé une partie de la population. Je dis, a rendu un peu les gens un peu abrutis, quoi. Je veux dire, le capitalisme qui est arrivé, c'est-à-dire donnant. C'est une démarche libérale. Mais je veux dire, c'est pas dur. Je veux dire, c'est pas dur de formater quelqu'un pour qu'il puisse penser pas capitaliste. Il capitalise déjà, il capitalise ses neurones, il capitalise son idéal. Aujourd'hui, n'importe qui peut, à ce niveau-là, vous pouvez le formater. C'est ça, et moi en fait c'est ça qui me tue le plus à la rigueur, parce que comment ils ont réussi à idéaliser des gens dans ce genre de système? Ils ont été formatés sur le besoin. Je suis matérialiste, donc pour moi l'idéal il est matériel. Ils ont été habitués à un système qui leur promet que le robinet coule, quoi. Maintenant, le prochain municipal, faut commencer à habituer aux gens que si c'est la gauche qui passe ou quoi, ou un autre parti, si c'est pas celui de l'UMP, qu'il faut s'habituer à ce que ce soit pas, qu'il y aura pas de financement privé. Vous nous posez la question de savoir qu'est-ce que cette municipalité a apporté depuis 12 ans. Mais on vous répond clair et net, elle a apporté la division parce qu'il y avait des financements privés.
Merci à tous, et je le rappelle encore avec tous nos regrets que Serge Dassault n'ait refusé de répondre à nos questions, c'est-à-dire à vos questions et notamment les questions que se posent les habitants de sa ville Corbeil-Essonne. C'était un reportage de Pascal Pascariello et Dila Tebi. Merci à Jacques Sicard, Serge Dantu, Bernadette Lesage, Bruno Piriou et à tous les autres qui se reconnaîtront. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires si vous voulez, ou bien sur là-bas.org, là-bas.org, où l'émission sera consultable pendant plusieurs jours, plusieurs mois et plusieurs années peut-être. Et là aussi, vous pouvez faire des commentaires. À la technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Céline Bonhomme. C'est Yann Chouquet et Coyenne Guyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, et c'est Renaud Lambert qui, exceptionnellement, cher Claude, parce que Claude est très inquiet que ce soit Renaud Lambert qui remplace Christophe sur le répondeur. Non, c'est tout à fait provisoire. Les auditeurs s'inquiètent de ce genre de choses. Et le numéro du répondeur, vous le savez, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Franchement, c'est pas sérieux. Vous êtes complètement désinformés.
C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. On vit dans un monde réel et vous vivez dans la fiction.
Merci beaucoup, Serge Dassault. Merci d'avoir accepté cette saga du pouvoir.